Bonjour et bienvenue sur AITFM, la radio française de l'high-tech et du numérique. Donc aujourd'hui, nous aurons un débat sur la place de la robotisation et de l'intelligence artificielle dans notre société. Pour cela, nous avons 5 invités avec nous sur le plateau. Donc bonjour à tous.
Bonjour.
Donc tout d'abord, nous avons Anthony Kligman.
Bonjour.
Donc un des principaux acteurs de la grande firme Nike. Êtes-vous content d'être là?
Oui, tout à fait. J'ai pu venir entre deux rendez-vous assez exceptionnels, donc ça me fait plaisir de pouvoir être là et pouvoir discuter de l'intelligence artificielle et de la robotisation avec vous.
Donc, de ce que vous m'avez dit, vous êtes plus pour la robotisation?
Oui, tout à fait.
Très bien. Donc, ensuite, nous avons Michel Dubert. Donc, vous êtes un chercheur?
C'est ça.
J'ai vu que vous avez publié une étude sur la capacité des robots scientifiques.
Tout à fait. Donc, avec mes collègues, on a publié quelques résultats de nos recherches par rapport à l'utilisation d'un robot scientifique, donc, particulièrement sur les recherches environnementales.
Très bien. Donc, on verra ça après. Olivier Serraconte, vous êtes un employé, c'est ça?
Oui, c'est ça. Enfin, j'étais, car je suis maintenant au chômage. À cause d'un accident à la main qui est survenu donc, dans mon entreprise.
D'accord, donc vous êtes plus contre la robotisation?
Voilà, donc je vais essayer d'expliquer les défauts que je trouve à la robotisation et à l'intelligence artificielle.
D'accord. Donc Bénard Dufek, vous êtes un industriel aussi?
Oui, créateur de la société MEA, une petite PME française qui travaille dans tout ce domaine artistique. Mmh. Donc je suis contre cette intelligence artificielle. Dans ce débat.
D'accord. Ouais. Très bien. Vous, Charles Polowski, vous êtes militant, membre d'une ONG qui fait partie du mouvement Stop Killer Robot.
C'est ça. Et donc nous voulons mettre fin aux robots pour la guerre, car ils décrédibilisent un peu la mort, mais on verra ça au cours du débat.
D'accord. Donc nous allons commencer par une question assez ouverte sur le sujet. Donc faut-il vraiment craindre un jour un basculement irréversible, ce jour où les machines seront dotées d'une conscience autonome et d'un libre arbitre? Bref, la science-fiction deviendra-t-elle un jour réalité? Donc qui veut ouvrir le débat?
Je vais bien commencer.
Allez-y.
Je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère qui est l'ère de l'IA, et donc avec plein de changements et qu'il va falloir donc s'habituer. Ça va être plein de nouveautés, des éléments qui vont faire peur, qui vont faire craindre et qui peuvent donc détruire. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de contrôler tous les points autour de l'IA. Je pense que l'IA va certainement dépasser l'homme en termes de capacité et d'intelligence. Déjà qu'on a pu constater une baisse de la moyenne du QI au niveau international. Donc si nous on se met déjà à baisser, à flancher face à la robotisation, ça risque d'être assez exceptionnel plus tard.
Et qu'est-ce que ça apporterait justement la robotisation pour vous, à votre entreprise?
La robotisation pour nous, ça peut être un peu un paradoxe, mais c'est de l'emploi. Parce que contrairement à ce que tout le monde peut penser, ça perd un secteur d'emploi, mais à la longue, on a beaucoup plus d'emplois qui sont créés. Donc pour nous, la robotisation est essentielle. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus ce contact humain qu'on avait auparavant.
Donc si je peux me permettre, vous dites que vous créez beaucoup d'emplois. Après, on ne sait pas dans quel domaine vous créez de l'emploi, puisque pour ma part, j'ai donc perdu mon emploi dans l'industrie mécanique depuis mon accident, puisque je ne peux plus travailler. De plus, il y a de plus en plus de robots dans l'entreprise, et des collègues à moi, malgré qu'ils n'aient jamais connu d'accident et sont en pleine possession de leurs capacités, ont perdu leur emploi car ils ont été remplacés par des machines. Aujourd'hui, comment vous pouvez remédier à ça?
Alors, ce qu'on a à dire, c'est que les accidents de travail sont souvent dus à une mauvaise maintenance. Notre maintenance est effectuée tous les deux jours, suite à la production importante que nous effectuons. Donc les risques de danger sont peu importants. Ensuite, nous avons presque aucun employé. Employé, c'est-à-dire employé dans la production de nos chaussures, car je travaille donc chez Nike, même des vêtements. Mais nous n'avons que des employés au niveau de la maintenance et de la conception ou de la production des machines. Donc tous ces risques-là sont plus présents. Donc ça, c'est le principal but. Ensuite, par rapport aux catégories d'emploi, on va détruire toutes les... Enfin, la robotisation détruit tout ce qui va être les emplois à la chaîne, donc les ouvriers. Mais notre entreprise ayant un revenu assez important, nous aidons nos anciens employés à réintégrer l'emploi en améliorant leurs compétences, leurs diplômes, afin de pouvoir continuer à gagner leur vie.
Bernard Dufek.
Je tiens à, sur un point, à préciser quelque chose, c'est que vous dites, monsieur Kingdon, que vous allez former vos ouvriers pour qu'ils puissent monter en grade, dans ce sens-là, mais tout le monde n'a pas les capacités de pouvoir faire un métier d'un niveau assez haut. Donc, pour moi, c'est quand même une réduction de l'emploi ouvrier et humain. Vous êtes moins touché par cela, mais c'est aussi une réduction de la main-d'œuvre qualifiée concernant l'artisanat. Donc, dans mon entreprise, l'artisanat, entreprise d'art, c'est fondamental et elle ne peut pas être les ouvriers ne peuvent pas être remplacés par une intelligence artificielle, car on a besoin de main-d'œuvre qualifiée, d'un certain savoir-faire qu'une machine ne peut pas exercer avec un simple algorithme.
Je comprends tout à fait, mais je pense que ce que vous êtes en train de nous dire dépend du type de production de chaque entreprise. Vous étiez en train de dire que votre entreprise était dans l'artisanat, donc il est nécessaire d'avoir une qualité assez importante. Donc l'homme est essentiel à votre entreprise, mais nous sommes sur des productions qui va jusqu'au million, voire même milliards, depuis notre création bien sûr. Et donc l'homme maintenant a moins son importance, car la qualité certes est encore présente, mais nous ne demandons pas une qualité exceptionnelle, surtout au prix de nos produits.
Et étant donné que vos productions sont essentiellement dans des pays en développement, est-ce que vous pensez avoir les moyens de pouvoir former vos ouvriers pour qu'ils puissent monter en grade au sein de l'entreprise ?
Nous essayons, parce que c'est un projet que nous avons depuis peu. Pour l'instant, nous n'avons que des bons résultats. Bien sûr, il y a forcément des personnes qui ne sont pas d'accord avec notre philosophie, mais nous comprenons aussi et nous essayons de trouver des solutions.
Okay. Donc nous avons vu un peu l'aspect économique. Maintenant, j'aimerais bien voir l'avis de Charles Polsky, car j'ai trouvé une citation d'Elon Musk qui disait que la compétition entre les pays sur l'intelligence artificielle nous mènera tout droit vers la Troisième Guerre mondiale.
Eh bien oui, en effet, les robots vont prendre le dessus au fur et à mesure et ils vont réduire le rôle de l'humain, que ce soit dans la guerre ou même dans les entreprises, tout ça. Et donc, et du coup, les humains vont perdre un peu leur... ils vont perdre le dessus, les robots vont prendre le dessus sur les humains et comment dire, les robots vont, enfin non, avec les robots, ça, le fait de tuer, par exemple à la guerre, et comment dire, un peu pas décrédibilisé, mais on perd la sensation de tuer avec un drone par exemple, s'il y a un humain derrière, ou même une IA, c'est plus facile d'envoyer des IA sur un champ de bataille que des humains. Et du coup, on peut réaliser un peu des massacres plus facilement.
Ok.
Si je peux me permettre de réagir par rapport à ce point. Finalement, pour commencer, je pense qu'on n'assistera pas à l'IA qui dépasse l'humain finalement. Parce que lorsque le terme de robotique est apparu dans les années 30, il a été énoncé trois lois sur la robotique. Et ces dernières abordaient justement l'aspect relation robot et humain. Et il était stipulé que le robot devait rester sain pour l'homme. Il ne devait pas lui nuire. Donc je pense qu'on ne dépassera jamais ce stade. Et enfin, pour revenir sur l'aspect de décrédibiliser la mort, enfin la perte de notion de tuer sur le champ de bataille, finalement c'est un peu un problème qui est apparu dès qu'on a... On a eu la notion de guerre moderne avec la Première Guerre mondiale, puisque finalement les artilleurs, c'est un peu le même problème. Finalement, ils tuent beaucoup de personnes, mais ils ne voient pas le visage. Donc je pense que c'est un problème qui n'est pas nouveau avec l'apparition de l'intelligence artificielle et de la robotique.
Si je peux me permettre, ce n'est pas exactement mon domaine, mais je vais essayer de débattre là-dessus. Je pense que là, on est sur une phase de transition entre la période où la robotisation était encore très rare dans le monde et la période qui va suivre où la robotisation et l'intelligence artificielle sera omniprésente. Je pense qu'à partir du moment où tous les pays seront en position d'obtenir l'intelligence artificielle et la robotisation, il sera préférable de faire une guerre de puissance en termes de technologie qu'une guerre de puissance avec des êtres humains. Les pertes seront donc pas humaines, mais uniquement économiques et matérielles. Et ensuite, pour revenir à votre exemple, j'ai une culture assez développée, entre guillemets, par rapport au film iRobot, on peut constater que lorsque le robot est acquis d'une conscience, qui est pour le moment pas possible, il enfreint justement ces trois lois. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ?
Eh bien, je pense que finalement, il faut repenser à la base ce qu'est une IA, finalement. Une IA, ça reste des lignes de code, certes très complexes, mais ça reste des lignes de code. Donc tant que le robot ou l'IA n'est pas capable d'apprendre par lui-même et qu'on lui impose ce qu'il doit faire, il est impossible que l'IA désobéisse et nuise à l'homme, finalement.
Pour en revenir à ce que vous disiez au début, on parle de l'arrivée de l'IA, donc c'est quelque chose de nouveau, donc il y a forcément des règles. Et pour prendre le cas d'Olivier et ses racontes, il y a bien une question juridique derrière ça, qui est responsable justement de son accident et du fait que ce soit un robot qui lui ait coupé la main. Olivier, vous avez un avis ?
Oui, alors cet accident est donc dû à une erreur de la machine que je ne connais toujours pas l'origine d'ailleurs. Mais oui, forcément, des accidents comme ça peuvent arriver et c'est à cause de ça que certaines personnes commencent à manquer de confiance envers les robots, et ce qui est compréhensible. C'est d'ailleurs mon cas aujourd'hui. Il est difficile de faire confiance à un robot alors qu'on ne connaît pas du tout comment il a été conçu ni codé. C'est le début de la robophobie, et qui peut être une maladie et qui va se répandre très rapidement dans le monde.
Et si je peux me permettre, votre accident, il est dû au final, la responsabilité est due aux techniciens qui se chargeaient d'entretenir le robot, à votre chef ou à une autre personne, car vous dites que ça développe la robophobie, mais au final, c'est pas vraiment le robot. Comme on dit, le robot exécute des lignes de code qu'on lui a inscrites. Et donc, s'il y a un problème, c'est qu'il a mal interprété ces codes et que ces codes ont été rédigés par un humain. Donc au final, c'est un humain qui a créé ce problème.
Oui, forcément, mais après, les personnes, malheureusement, de bas de tableau comme moi, qui travaillent avec les robots du bas de l'échelle, ne connaissent pas comment sont codés ces robots et ne peuvent pas, savoir quel geste il peut faire si on le dérègle. Par exemple, et on ne peut pas tout connaître sur lui, puisqu'on n'a pas les connaissances.
Il vous faudra une formation, comme le disait Anthony, oui, pour vous mettre au niveau.
Cela impose donc à tous les ouvriers d'être formés, d'avoir fait de longues études, ce qui est problématique, ce qui est très problématique dans le monde d'aujourd'hui, car tout le monde n'est pas en capacité de faire de longues études.
Oui, mais là, vous parlez du fait de devenir ingénieur, alors que dans la maintenance, les études sont moins longues. On peut compter à Bac+3, par exemple.
C'est toujours compliqué du travail de la chaîne.
Certes, mais après, vous êtes beaucoup plus qualifié. Et après, tout dépend de l'engagement dont vous êtes prêt à suivre.
Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, je dirais que c'est pas forcément les études, mais plus la manière dont on aborde la robotique dans la vie de tous les jours, finalement. Peut-être que si on nous introduisait dès l'enfance des notions de robotique, certes très, très généralisées, mais quelques notions de robotique, ça nous permettrait d'avoir une meilleure approche avec l'utilisation de robots.
Je vois que votre étude était surtout basée sur l'écologie, c'est ce oui. que vous avez dit. Donc du coup, le robot, est-ce qu'il va polluer plus, ou justement, est-ce qu'il va être une alternative à cette pollution à laquelle on doit faire face?
À première vue, on pourrait penser que justement le robot va consommer plus d'énergie, ça va engendrer une dépendance énergétique. Mais ce qu'on a cherché à mettre en avant avec notre étude sur les robots chercheurs pour l'environnement, finalement, c'est qu'il nous permettait d'être une solution pour justement nous permettre d'être un peu plus éco-responsable, finalement. En effet, pour nous, il est parfois très très difficile d'accéder à certains endroits. Par exemple, les fonds marins qui sont difficilement explorables. Avec des robots, c'est beaucoup, beaucoup plus simple de relever des mesures. De la même manière, c'est aussi plus simple de respecter la faune et la flore avec un robot que de déplacer tout le matériel avec nous sur place. Donc je pense que il faut pas voir le robot comme une manière de polluer moins, mais plus comme une manière de comment
utiliser en tant qu'outil.
Oui, c'est ça, c'est utiliser en tant qu'outil pour justement apprendre nous renforcer sur les points qu'on pourrait améliorer pour être plus éco-responsable.
Très bien.
Mais si je peux me permettre, le problème de fond, c'est plutôt le recyclage. Si par exemple, si un robot est mis hors de fonctionnement, après, qu'est-ce qu'on fait de ses composants? Est-ce que ça va pas être compliqué de les recycler et tout ça?
Finalement, c'est déjà un problème qui est présent depuis qu'on a l'utilisation de beaucoup de technologies embarquées, comme sur les smartphones, finalement, parce que ça reste le même type de matériaux. Et c'est vrai qu'on va avoir un problème de recyclage, mais ce sera négligeable par rapport à ce qu'on rencontre déjà. Ce sera un poids mineur par rapport à l'industrie téléphonique.
Et pour en revenir justement aux explorations marines, donc dans des profondeurs que l'homme ne peut pas accéder, sachant que vos robots sont composés de métaux lourds, sont très polluants, imaginons que vous perdez le signal avec ce robot et que vous ne puissiez pas le récupérer, un peu comme la situation du sous-marin argentin en ce moment, donc vous perdez le signal, ce robot irait au fond de la mer et polluerait donc les fonds marins, qui aujourd'hui ne sont peut-être pas pollués car inaccessibles pour l'humain. Donc ça repousserait peut-être le champ d'action sur de l'humain, ce qui engendrerait des pollutions des endroits qui ne sont pas actuellement.
Je suis pas forcément contre ce que vous dites, mais je pense que si on a toujours à l'esprit ce genre de risque, on peut pas avancer dans l'exploration et la découverte. Si on avait raisonné comme ça, on serait jamais allé dans l'espace, par exemple. Donc
Excusez-moi de vous couper, mais on a quelques tweets justement qu'on a reçus récemment. Le premier qui est « Faut-il apprendre aux véhicules autonomes à éviter un chien qui traverse ?» Donc ça revient aux questions juridiques que je vous ai posées en début de débat. La seconde qui est « Peut-on laisser mettre en vente des robots sexuels destinés aux pédophiles ?» Donc c'est surtout une question éthique, dans le sens où le robot, quelle place aura-t-il justement à l'avenir dans un groupe d'humains en quelque sorte ? Va-t-il pouvoir remplacer un contact justement ou... Et est-ce qu'on a le droit justement de faire tout ce qu'on veut avec un robot?
D'abord, je pense que même si on voulait interdire, ce serait comme pour les drogues, ça serait fait discrètement et en cachette. Donc on n'y peut rien. Si une personne a besoin de satisfaire ses besoins, qu'ils soient dans l'éthique ou non,
Il y a quand même la question d'un robot pédophile justement dans sa question qui est justement, c'est pas. Si c'était un humain, on ne le ferait pas. Alors que
oui,
pourquoi avec un robot, on aurait le droit de le faire?
Cette personne, imaginons à quel degré de stupidité peut-elle aller. Et en fonction de cela, cette personne effectuera ses besoins ou non.
Oui, mais l'industrie, elle, est contrôlée. Et donc, si on interdit de concevoir et donc d'industrialiser des robots sexuels enfants, cela n'existera pas. Donc, on peut limiter ça quand même.
C'est vrai. Mais dans le cadre éthique, cela peut être possible. Mais dans le cadre industriel, tout dépend du pays qui souhaite produire cela. Ouais. Et de la législation du pays.
Et puis si on laisse des robots... si on donne des robots aux pédophiles, après, peut-être qu'ils diront qu'ils peuvent, s'ils le font sur des robots, qui s'apparentent à des humains, ils pourront aussi le faire sur des humains. Il y a aussi une barre qui est à ne pas franchir.
C'est le statut de la femme qui est remise en question, car elle est comparée ici à un objet. Si la personne se dit qu'il peut faire ce qu'il veut avec cet objet, au final, il ne fera plus la différence avec un être humain normal. Donc, c'est un peu une matérialisation de l'homme. Et en ce moment, avec les débats qu'il y a autour justement des harcèlements sur les femmes ou autres, ça peut poser problème sur des questions éthiques.
Une dernière question. Qu'apportent les robots dans la vie de tous les jours et est-ce qu'il y a un risque, justement?
Donc, ça va répondre à la fois à votre question et à la fois à la question de l'environnement. On s'est rendu compte que nous, on stocke des données d'utilisateurs par rapport aux comptes qu'ils ont sur notre site internet par rapport aux achats. Mais pas que, aussi les données de la robotisation ou autre. Et donc ce stockage produit extrêmement de chaleur. Il en produit énormément, mais de manière à une échelle hallucinante. Donc au lieu de laisser cette chaleur s'en aller et de perdre économiquement, en quelque sorte, nous avons décidé de consacrer un immeuble à laquelle, dans lequel on aurait l'accès à un étage sur lequel on viendrait stocker les données, et tout le reste de l'immeuble serait pour les citoyens du pays, pour pouvoir y habiter. Et en fait, nos données serviraient à chauffer l'immeuble et donc servir à l'homme indépendamment, et cette énergie serait fournie gratuitement par notre société.
D'accord. Sinon, pour les risques que l'humain encourt au quotidien en contact avec les intelligences artificielles et les robots, je pense qu'ils sont nombreux, que ce soit dans le domaine en particulier de la santé mentale et physique, car l'IA peut aujourd'hui remplacer l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de réfléchir, le robot va tout lui rappeler, tout ce qu'il a oublié, et devient même ses bras car il fait tout à sa place. L'humain n'a plus besoin d'aller faire ses courses, cela peut être très dangereux pour sa santé en termes d'obésité et même de la baisse de la réflexion mentale de l'homme en général.
Bon, au niveau des risques, j'aborderai le thème de l'emploi, car il faut savoir qu'actuellement en France, il y a environ 6 millions de chômeurs, donc toutes catégories confondues, mais une grande majorité d'emplois ouvriers qui sont au chômage. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a un gros manque d'ingénieurs, environ 15 000 en ce moment. Et je pense que la mise en place de ces intelligences artificielles nécessite encore plus d'emplois ingénieurs, ce qui écarterait encore plus les écarts entre la demande d'ingénieurs et le chômage ouvrier, et ce qui renforce les problèmes actuels et qui ne donne pas une solution, même en formant des ouvriers comme proposent certains. Le problème global n'est pas réglé et au contraire s'accentue malgré quelques compensations. Donc c'est un risque à prévoir dans l'avenir.
Et puis même, on peut voir aussi qu'il y aura des problèmes au niveau du savoir, avec par exemple, quand on va sur internet, nos recherches sont de plus en plus guidées. Et donc on peut voir qu'il y a un risque de la perte de la personnalité un petit peu, ou même de notre esprit critique quand on va sur internet, parce que on est guidé et du coup on fait plus la recherche par nous-mêmes, c'est le moteur de recherche qui recherche pour nous et qui nous affiche ce qu'il a envie de nous afficher.
Moi je tiens à souligner un point, c'est tout à l'heure on parlait de la disparition de savoir-faire, mais finalement je pense que la robotique, l'apparition de la robotique et de l'IA, c'est une chance pour l'homme, parce que justement certes certains savoir-faire vont disparaître, mais on va en faire apparaître d'autres encore plus poussés. La recherche en robotique, finalement, je parle en tant que chercheur, ça nous permet de repousser nos limites. À chaque fois qu'on trouve une solution, on ne peut pas se satisfaire de ça, donc on cherche toujours à aller plus loin sur nos progrès. Et je trouve que la robotique, c'est vraiment un domaine qui nous permet d'aller très loin dans nos recherches. Et je pense que c'est important pour l'homme de toujours repousser ses limites de cette manière.
Très bien.
Et donc, si je peux rajouter, on tendrait donc vers une société élitiste et un capitalisme renforcé, car pour accéder justement à cette robotique, il faudrait faire de longues études, et ça accentuerait donc les différences, et ce seraient les meilleurs qui réussiront au sein de la société pour le futur, même si ça repousse justement, comme vous le dites, je suis d'accord, le champ des possibles, car on va découvrir de nouvelles choses. Les catégories bases vont être pénalisées dans le futur.
Je pense que vous avez raison sur ce point, et c'est pourquoi je pense que en fait c'est du côté de l'éducation qu'il faudra se pencher également, pas seulement du côté technologique ou industriel. Je pense que l'éducation sera un rôle très important par rapport à ça, et il faudra sûrement réadapter les formations pour que ce soit plus adapté finalement.
Revoir à la source, ouais, pour former dès le début les.
Et par rapport aux dangers, si je peux rajouter. Je pense qu'il faut se servir de la robotisation et de l'IA comme un outil, et dont un outil dont on aura le contrôle, et non comme un objet dont on donnerait l'excuse d'un accident, par exemple. Il faut savoir que, par exemple, le créateur de l'intelligence artificielle serait donc lui le coupable en cas d'accident, car c'est lui qui a créé l'intelligence artificielle et c'est lui qui est responsable de tous ces risques causés par celui-ci.
Donc on peut voir qu'il reste encore beaucoup de questions autour de ce sujet, mais nous sommes qu'au balbutiement de l'intelligence artificielle et de la robotique. Donc pour clore ce débat, on peut dire que toutes ces questions restent quand même redondantes. Ça reste autour de l'emploi, une question éthique et juridique. Nous verrons par l'avenir comment ce sujet évolue.
Merci.
Merci.